Révèle que ce ne fut qu'après la mort et la résurrection de Jésus que l'évangile fut prêché aux gentils. Avant sa mort, Jésus dit à ses disciples de ne pas aller chez les gentils. Pourquoi cela? Qui fut le premier gentil converti? Nous continuons d'étudier le livre des Actes et voulons au cours de cette discussion trouver la réponse à ces questions. Ces émissions sont offertes par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, éditeur des publications Aurore, en collaboration avec les groupes locaux d'études bibliques et leurs amis de partout, et ont pour but de favoriser l'étude de la Bible dans un esprit de tolérance et de bonne volonté envers tous. Ce sera certainement une surprise pour beaucoup d'apprendre qu'au début de l'ère chrétienne, la propagation de l'Évangile était limitée. Mais le livre des Actes nous apprend en effet qu'il en était ainsi.
Et non seulement le livre des Actes, mais comme tu nous l'as rappelé au début, Jésus dit à ses disciples de ne pas aller chez les gentils.
Mais Pierre, cette restriction ne fut-elle pas levée plus tard ?
Oui, mais après la résurrection de Jésus. Selon le premier chapitre du livre des Actes, Jésus envoya ses disciples pour être ses témoins, d'abord à Jérusalem, et ensuite dans toutes les parties de la terre.
Pourquoi l'œuvre des disciples fut-elle restreinte, même pour un temps court ? N'est-ce pas la volonté de Dieu que tous les hommes aient l'occasion d'être sauvés ?
Oui, Thomas, mais continuons l'examen des livres de la Bible, nous découvrirons que Dieu préparait simplement la conversion du monde. Et il le fit selon un programme limité, d'élection ou de sélection.
Le mot « église » signifie un peuple appelé, ce qui implique une sélection de quelques-uns parmi les autres. Mais cette sélection ne s'appliquait pour un temps qu'exclusivement aux Israélites, nous dit la Bible.
Les Israélites, comme tu le sais, Thomas, étaient les descendants d'Abraham. Et c'est à Abraham que Dieu promit « En toi et en ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre ».
Ceci indique que Dieu a l'intention de bénir toute l'humanité, donc toutes les familles de la terre.
Oui, cela nous donne l'assurance définitive de l'intérêt et de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Mais Thomas, note bien que les bénédictions promises devaient venir par la postérité d'Abraham.
Pouvons-nous dire alors que Dieu en a choisi quelques-uns pour bénir les autres?
C'est bien là la pensée. Les descendants d'Abraham, les premiers, eurent l'occasion de devenir la voie des bénédictions pour l'humanité. Mais ce ne fut pas une sélection arbitraire, non soumise à une épreuve de qualification. Chaque membre de cette compagnie sélecte dut prouver par sa foi et son obéissance à la volonté de Dieu qu'il était digne d'un si grand honneur et digne du privilège de servir de canal de bénédiction pour le monde. Cette opportunité fut d'abord restreinte aux descendants d'Abraham. Mais trop peu nombreux furent ceux qui passèrent l'épreuve pour compléter le nombre prévu par Dieu, et c'est ainsi qu'elle passa aux gentils.
Veux-tu dire que le plan de Dieu pour les descendants d'Abraham a échoué?
Non, Thomas, ce n'est pas la pensée. Il connaissait d'avance le résultat et le prédit dans l'Ancien Testament. En effet, le temps exact auquel l'Évangile fut offert aux gentils est annoncé dans le livre de Daniel. L'article « L'Église et sa mission » attire l'attention sur ce fait. Ce fut exactement au temps annoncé que les premiers gentils furent ajoutés à l'Église.
Le premier gentil converti fut Corneille. J'ai lu le récit merveilleux et intéressant des circonstances qui ont amené sa conversion, énoncé dans les 10 et 11e chapitres du livre des Actes. Corneille était un homme pieux, et lorsque le temps de Dieu fut arrivé, un ange lui apparut et lui dit de faire appeler Pierre. Pendant ce temps, Pierre, qui se trouvait à quelque distance de là, à Joppé, eut une vision. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins dans laquelle se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre que les Juifs considéraient impurs. L'Éternel dit à Pierre de les tuer et de les manger. Mais celui-ci refusa en disant qu'ils étaient impurs. Alors il entendit une voix qui lui disait « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé ». Ensuite de quoi il reçut l'invitation d'aller chez Corneille. Il alla donc chez ce gentil et lui prêcha l'Évangile ainsi qu'à toute sa famille. Ils l'acceptèrent et le Saint-Esprit descendit sur eux. Alors Pierre comprit la signification de sa vision. Il sut alors que les gentils considérés comme impurs étaient dès lors acceptables à Dieu en raison de leur foi en Christ.
Quelle merveilleuse expérience! Deux miracles, l'un dans l'expérience de Corneille et l'autre dans celle de Pierre, qui marquèrent un changement de dispensation dans l'accomplissement du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Dès lors, les gentils furent acceptés dans l'Église, dans la classe des appelés. Plus tard, au cours d'une conférence tenue par les apôtres à Jérusalem, Pierre relate cette expérience. « Thomas, je pense que tu devrais lire ce qu'il dit. Le récit est rapporté dans le 15e chapitre du livre des Actes, versets 7 à 9. »
Avec plaisir. Pierre leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Pierre fut certainement convaincu que Dieu appelait les gentils pour faire partie de l'Église, la classe des appelés.
Et les autres apôtres le furent également. L'apôtre Jacques, présent à cette conférence, résuma la signification de ce qui avait été discuté. Son exposé est rapporté à partir du 13e verset. Voudrais-tu le lire, Thomas ?
Avec plaisir, Pierre. L'apôtre Jacques dit, « Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'entre elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toute la nation sur laquelle mon nom est invoqué. » Dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. En réalité, Jacques esquisse toute une série d'événements concernant le plan de Dieu pour le salut de l'humanité.
Oui, mais remarque bien qu'il dit que Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom.
Autrement dit, l'œuvre divine au cours du présent âge n'a pas eu pour but de convertir tous les gentils, mais plutôt de sélectionner par la puissance de l'Évangile un peuple pour son nom. Mais Pierre, que signifie cette expression « un peuple pour son nom » ?
C'est un des titres descriptifs de la classe que Dieu sélectionne pour être le canal de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Comme nous verrons plus tard, ils sont les fils de Dieu. Ils sont l'Église de Christ. Ils sont la postérité promise à Abraham. Un des symboles de la Bible représente ses fidèles comme la future épouse de Christ.
Mais Pierre, pouvons-nous être sûrs que la sélection de ce peuple pour le nom de Dieu n'est pas la fin du plan de Dieu pour le salut de l'humanité?
Nous pouvons être tout à fait sûrs, Thomas. L'apôtre Jacques nous parle des événements qui suivront cette œuvre de l'âge présent. Tu remarqueras qu'il dit, « Après cela, le Seigneur reviendra pour relever de sa chute la tente de David. »
Qu'est-ce que cela veut dire?
La tente ou tabernacle de David est le trône de David, et David était assis sur le trône du Seigneur. C'était un royaume ou gouvernement typique représentant le royaume de Christ. Au cours de notre étude de l'Ancien Testament, nous avons appris que ce royaume fut renversé en 606 avant Jésus-Christ, et le dernier roi des Juifs fut emmené captif à Babylone. Le prophète Ézéchiel dit que cela ne se produira plus, jusqu'à ce que vienne celui auquel appartient le droit de régner. C'est une prophétie concernant le Messie et son gouvernement qui prendra la place du royaume typique d'Israël. Ce royaume s'établit de retour de Christ, et il est annoncé dans les prophéties comme le rétablissement du trône de David.
Autrement dit, l'apôtre Jacques nous rappelle simplement que le royaume messianique doit être établi au second avènement de Christ et que cela aura lieu à la fin de l'âge actuel pendant lequel un peuple pour le nom de Dieu est appelé du milieu des gentils.
Oui, c'est exact. Et Jacques dit ensuite que le reste des hommes aura l'occasion de chercher le Seigneur.
Mais Pierre, pense aux millions de gentils d'Israélites qui sont morts au cours des âges. Comment auront-ils l'occasion de chercher le Seigneur?
Thomas, en continuant l'étude des merveilleuses vérités contenues dans le livre des Actes, nous verrons que l'apôtre expose l'espérance glorieuse de la résurrection de tous les morts. Jacques nous dit que le plan de Dieu pour les juifs et les gentils correspond aux paroles des prophètes. Et Paul dit qu'ils ont annoncé une résurrection des justes et des injustes.
Autrement dit, la mort n'empêchera pas la réalisation des promesses du Seigneur en faveur de l'humanité.
Pas du tout. Pour le Seigneur, la mort n'est qu'un sommeil duquel, au matin du nouveau jour, se réveilleront tous ceux qui se sont endormis. Et alors, en vertu des arrangements du royaume messianique, toute l'humanité aura l'occasion d'accepter Christ, d'obéir à sa loi et de vivre toujours comme être humain sur la terre restaurée. Ce sont quelques-uns des points présentés par l'article « L'Église et sa mission ». Thomas, voudrais-tu en parler à nos amis ?
Avec plaisir, Pierre. Chers amis, l'Église et sa mission fait ressortir non seulement la mission actuelle de l'Église, mais démontre également qu'au temps du royaume, l'Église sera associée à Christ et constituera le canal des bénédictions pour toute l'humanité. C'est un sujet rassurant avec lequel il est bon de se familiariser. L'article « L'Église et sa mission » est le sixième d'une série d'articles qui passe en revue tous les livres de la Bible en facilitant la compréhension de la parole de Dieu et en permettant de la lire avec plaisir. Demandez un exemplaire gratuit. Quel est l'enfer de la Bible ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? Pourquoi le monde n'a-t-il pas été converti ? Qu'est-ce que le jour du jugement ? Quelles opportunités auront les pécheurs en ce jour de jugement ? Où serez-vous à la résurrection ? Ce sont là seulement quelques-unes des questions dont vous trouverez la réponse dans l'article « L'Église et sa mission ». Demandez un exemplaire. Demandez l'article « L'Église et sa mission ». Il vous sera envoyé gratuitement et franco, sans obligation de votre part. Ce programme d'études bibliques vous est offert par l'Association des étudiants de la Bible, éditeur des publications mensuelles Aurore, en coopération avec les groupes locaux d'études bibliques et nos amis de partout. Nous serons à nouveau avec vous à la même heure, la semaine prochaine. Parlez-en à vos amis et que Dieu vous bénisse tous.